Bonjour à tous. Pardon pour le retard. Hein. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien tous? Mes sœurs vont bien? Mes sœurs vont bien? Ah oui. Et les frères?
Oui.
Bah, si vos femmes vont bien, vous allez bien. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sous le regard de Dieu et que c'est le Seigneur qui vous a conduit en ce matin. Et je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi quelques versets du psaume 145. Je vous laisse le temps de chercher dans vos Bibles, pour certains le portable. Je n'ai pas donné à Jonas les textes. Le psaume 145... Vous avez trouvé les versets 18 et 19, mais nous lirons tout le psaume, hein, bien aimé. Mais les versets 18 et 19 nous disent « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. » Amen. L'Éternel entend les murmures, les supplications. Il entend tout, parce qu'il sait tout et il voit tout. Et il nous sauve. Nous allons nous lever pour chanter ce chant « Hosanna ». Nous allons ouvrir les portes de notre cœur au roi des rois. Nous allons pousser des cris de joie et je fais confiance à certaines personnes que je ne vais pas citer pour crier. Nous allons nous concentrer sur celui qui sauve, ce Dieu grand, merveilleux, miséricordieux. Chantons. Hosanna. J'entends pas. Hosanna. Hosanna. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna. Vous ne chantez pas. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna. Que les sœurs marchons ensemble. Les hommes, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Les hommes, notre prière. Dieu est avec nous. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna. Les sœurs, dansons devant lui. rempli de sa vie. Dieu est avec nous. Chantons ses louanges. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Nous allons reprendre ce chant. Et je veux vraiment vous entendre, bien-aimés. Les sœurs, chantez avec moi. Les frères, je veux vous entendre. Vous avez des grosses voix. Nous allons marcher ensemble. Nous allons ouvrir nos bouches. Qui pourra taire notre prière? Et nous allons danser ensemble. Amen. Nous allons reprendre ce chant. Hosanna. Parce que nous accueillons celui qui sauve. Amen. Nous accueillons celui qui sauve. Les sœurs, vous chantez en premier, hein? Marchons ensemble. Hosanna. 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 Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Oh.
Amen.
Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Marchons ensemble,
les hommes.
Yeah. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire? Levons sa bannière. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, puis de sa vie. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. À jamais il sera l'agneau sur le trône et nous fléchissons le genou pour l'adorer lui seul. Chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité. Proclame. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Jamais il sera. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. À jamais il sera l'agneau de Dieu, celui qui sauve et que nous venons de proclamer, d'acclamer. Hosanna, notre Dieu, sauve en tout temps. Et dans tout ce qui se passe autour de nous, bien-aimés, Jésus, c'est le seul espoir de chaque homme, de chaque famille, de chaque société, de chaque nation. Et il nous le dit dans le psaume 145, et nous allons le faire. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Ce sont les 5 premiers versets. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Bien-aimé, l'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre ses œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. Et si nous devions continuer le psaume 145, je prendrai les versets 13 à 17 qui nous disent « Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. » Et la promesse qu'il nous fait en ce matin, « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous » de toute cette communauté de Créteil, espère en toi, Seigneur. et tu leur donnes la nourriture en ton temps. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Ah, et je peux vous dire que votre sœur Patricia, il camaché bancal, hein, il courbé. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Amen. Ô Seigneur, je te bénis, je te loue en ce matin avec mes frères et sœurs. Et ce moment de louange et d'adoration que nous voulons te porter maintenant, que tu puisses le recevoir, que tu puisses l'agréer. Ô Jésus, que tous ceux qui n'ont pas osé ouvrir leur bouche, tu regardes leur cœur et tu sais ce qu'il y a dedans. Mais un merci d'un cœur reconnaissant vaut mieux que des prières, 1000 prières de 20 mots. Pour ma part, en ce matin, je te dis merci parce que tu m'as renouvelé. Merci Seigneur pour chacune de mes sœurs, pour chacun de mes frères, pour nos enfants, nos familles que nous avons laissées. Mais tu es cet espoir. Oh, le plus beau des cadeaux, c'est toi. Espoir des nations, espoir de toute une vie. Car une vie, même un homme très riche, s'il ne vient pas à Jésus-Christ, ce n'est rien. Il est perdu pour l'éternité. Alors en ce matin, fais grâce. Et ouvre la bouche de ton peuple en ce matin. Et reçois notre adoration et notre louange au nom de Jésus. Amen. Merci Dieu trois fois saint. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. » On va demander à des scientifiques bien-aimés de nous expliquer ça, hein. Ils ne pourront pas. C'est vraiment un mystère. Mais en Jésus-Christ, nous avons accès à ce mystère. Et c'est le prochain chant avant la prédication. Au mystère infini, vous le connaissez ce chant? Mystère de Jésus-Christ, homme et Dieu réunis. Vous ne le connaissez pas non plus. Ouh là là, pardonnez à votre sœur Patricia. Nous allons le chanter quand même. Je vous lis les paroles. Mystère de Jésus-Christ, homme et Dieu réunis, en parfaite harmonie, roi humble de cœur. Seigneur d'éternité dans notre humanité, suprême humilité, s'abaisse et lave nos pieds. Jésus-Christ était une folie peut-être pour ceux de son époque. Mais pour nous qui avons l'Esprit Saint, il est à notre portée, n'est-ce pas bien-aimé? Ô mystère infini. Mystère de Jésus-Christ, ô mes dieux réunis, en parfaite harmonie, roi humble de cœur, Seigneur, dans notre humanité, suprême humilité, s'abaisse et lave nos pieds. Ô mystère infini, ô mes dieux réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu.
Oh, je l'ai mal prié, pardonnez votre sœur. On va continuer, du Père le reflet.
Du Père le reflet, innocent et parfait, pourtant il se soumet jusqu'à la croix, pour nos péchés souffrants, victorieux par son sang, prie en agonisant, ô Père, pardonne-leur. Ô mystère infini, sagesse insondable, amour inaltérable, il naît dans une étable, il s'offre humblement, roi aux mille richesses, se penche avec tendresse, porte notre faiblesse jusqu'au trône de Dieu.
Jésus, pardonne-moi. Que le Seigneur me pardonne. C'est un très beau chant, mais c'est le Seigneur voit au cœur. Du Père, le reflet innocent et parfait, pourtant il se soumet jusqu'à la croix. Pour nos péchés souffrants, victorieux par son sang, prie en agonisant, ô Père, pardonne-leur. Sagesse insondable, amour inaltérable, il naît dans une étable, il s'offre humblement. Roi aux mille richesses, il s'est penché avec tendresse sur chacune de nos vies et il porte chacune de nos faiblesses jusqu'au trône du Père. Amen. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Raymond pour le message.
On va prier, on va enlever le caillou. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants parce que nous savons que tu es présent et nous savons que tu sièges au milieu de nos louanges. Et nous voulons te louer, te célébrer, te bénir pour ta présence. Et nous refusons toute action de l'ennemi en nous, autour de nous. Et nous réclamons le silence autour de nous et aussi en nous. Pour que par ta parole, par ton Esprit Saint, tu parles encore à nos cœurs et tu disposes de ce moment que nous avons voulu bien mettre à part parce que c'est toi qui nous as convoqués. Glorifie ton nom et loué sois-tu par Jésus-Christ. Par ton... Amen. Merci de vous asseoir. Vous savez, quand il y a une contrariété dans quelque part, il faut... redoutable. Et donc, si on prend le temps de lui donner un coup d'épée, il faut donner une seule fois. Il ne faut pas lui donner deux fois parce qu'il peut se débattre. Mais nous sommes victorieux en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Vous savez, quand nos parents nous corrigeaient, ils nous donnaient pour que nous n'ayons pas à redemander. Hein? Et tant que papa n'est pas là, on peut faire ce qu'on veut avec maman, vrai ou pas? Mais quand papa arrive, on entend la voix de papa, on dit, oh, papa est là, papa a parlé. Vous savez? Nous avons tous été enfants, n'est-ce pas? Mais Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, qu'est-ce qu'on fait? On fait silence ou on obéit. N'est-ce pas? Et parce que quand Dieu dit la chose, mais nous avons toujours des tiraillements à gauche et à droite et on dit, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Dieu est pourtant celui qui, dès le départ, au commencement, dit la Bible, quand vous prenez votre Bible, hein, si vous y croyez, et certains disent non, on ne croit pas, c'est le Big Bang. Au commencement, Dieu a parlé. Et Dieu a dit, et la chose est arrivée. N'est-ce pas? Et Dieu continue de parler ou bien sais-tu? Quand Dieu se tait, mes enfants, c'est terrible, hein? Il y a des on nous demande de faire une minute de silence. Vous avez essayé de faire déjà une minute de silence? Il y a toujours quelqu'un qui tousse. Dieu nous demande de faire silence quand il parle. Parce qu'il continue de parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hébreux 1, verset 1, dans la version de la colombe, pardon. Après avoir autrefois ou jadis, à plusieurs reprises, de plusieurs manières ou de manière différente, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu nous a parlé. Continuez. Par le Fils. Est-ce qu'il était là? D'accord. Alors je recommence. Après avoir autrefois de plusieurs manières, de plusieurs différentes manières, Dieu a parlé par son Fils. Il n'a pas parlé par Mahomet, ni par Bouddha, ni par la Vierge Marie. D'accord, Dieu a parlé. Alors qu'on ne me dise pas aujourd'hui, Dieu parle de plusieurs manières et qu'il peut parler à d'autres et qu'il peut se révéler à d'autres. Il s'est révélé une fois pour toutes en Jésus-Christ. Allô? Parce que je veux bien avoir des cousins, mais des cousins qui croient en Jésus-Christ. Allô? D'accord. Vous savez, Dieu a voulu, je continue le texte jusqu'au verset 4, parce que ce Fils, il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Qui peut faire ça sinon Jésus-Christ? Parce qu'il est lui-même Dieu. Ce Dieu qui a créé toutes choses s'est révélé dans la création. On dit oui, mais celui qui a fait ça, il est grand. On n'appelle pas Dieu, mais il est grand. Ce qu'on appelle la révélation générale. Et puis 2 Timothée chapitre 3 verset 16 nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et c'est ce sont par les écritures, c'est par les écritures que Dieu aussi s'est révélé. Parce que c'est à travers la parole que nous avons la foi et la foi nous révèle Jésus-Christ. Et puis Dieu a parlé par les prophètes autrefois dans sous l'ancienne alliance et les hommes n'ont pas écouté quand même. Je ne sais pas si vous avez observé, il y a c'est surtout les femmes, hein. Elles sont très observatrices. Patricia n'avait pas son alliance depuis Belle Lurette. Et puis il y a 2 semaines, on a décidé de réparer, de recoller, de ressouder une alliance. Ça, c'est soudé une fois pour toutes, n'est-ce pas? Mais comme elle avait été opérée, le doigt avait enflé, alors j'avais le choix entre couper le doigt et couper l'alliance. J'ai préféré couper l'alliance. Et puis bon, pas d'argent, donc finalement on s'est dit c'est pas bien, les gens vont parler. On a décidé de ressouder. Elle n'est pas là. D'accord, c'est pour ça que je parle comme ça alors. Mais Dieu a fait plusieurs alliances et pour finalement faire une alliance éternelle avec les hommes que nous sommes, en Jésus-Christ. D'accord? Vous allez voir le but d'une alliance. Et le pourquoi Dieu nous a choisis. Parce qu'il a choisi, il fait une première alliance en Adam. Tout début, Adam a échoué. D'accord? Et il a fait une alliance en Noé après. Vous vous souvenez? L'arc-en-ciel. Plus de déluge sur terre pour éliminer la race humaine. Et pourtant, regardez, partout dans le monde aujourd'hui, c'est des inondations. Mais, Dieu a dit, plus de déluge. Il y aura le déluge, mais ça ne va pas dépasser les sommets. Dieu a fait alliance avec Abraham. J'ai compté dans la Bible, il y a au moins 8 alliances, 8 ou 9. Abraham, Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 15, Genèse 17, Dieu a multiplié, tu seras père d'une grande nation. Et puis, Dieu a fait alliance avec Moïse. Moïse a voulu connaître son identité. Il a dit, ok, d'accord, je lève le voile, je suis le grand je suis, l'éternel des armées. Et plus tard, nous lisons, et je vais lire avec vous, Exode chapitre 4, verset 22. que Dieu a un fils qui s'appelle Israël, premier-né. Vous saviez ça? Dieu a fait alliance, Exode chapitre 2. Vous me regardez comme si c'est la première fois que vous entendez des choses. Exode chapitre 4, pardon, verset 22. Exode 4, verset 22. Quand Dieu envoie Moïse devant Pharaon, il dit au verset 22, « Tu diras au Pharaon de ma part, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » Vous le saviez? Non. Verset 1, oui, ouais. Et verset 23, je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, alors moi je ferai pour périr ton fils, ton premier-né. Israël est devenu le premier-né parce que Dieu a fait alliance avec Israël, tu seras père d'une grande nation. Et puis, Israël, je dirais, a été le récipiendaire, le réceptacle, dépositaire, comme vous voulez, des lois, des alliances, du culte et même du temple. Israël avait beaucoup d'avantages que les autres nations autour n'avaient pas. À Terre ancienne, ceux qui entraient dans le temple, dans certains lieux, c'était à leur risque et péril parce que c'était réservé aux Juifs, à Israël. Et aujourd'hui, on peut condamner Israël dans la région de Gaza, mais Israël reste encore, malgré sa désobéissance, reste encore le peuple de Dieu. Allô? Et nous pouvons louer le Seigneur pour Israël parce que nous avons été greffés sur Israël. Quand on fait, pour les agriculteurs, quand on fait une greffe, il y a le sauvageon et puis il y a la greffe qui vient se planter dessus. On attache jusqu'à ce que ça vit de la sève d'en bas. Et Dieu a fait que Israël a occupé et occupe encore une position unique. Et depuis sa sortie d'Égypte, Israël a été protégé par ce grand Dieu. Avec la gloire, la Shekinah, cette nuée qui précédait ou qui suivait et qui faisait en sorte que personne ne pouvait attaquer Israël. Peuple béni, certes, mais... Ma question est, à quoi pouvaient servir toutes ces bénédictions si elles ne conduisent pas au salut? Parce que le salut ne s'obtient pas par les œuvres de la loi. Donc Israël avait un privilège, comme beaucoup qui se disent chrétiens aujourd'hui ont des privilèges, ils sont bénis, ils sont sanctifiés par ceux qui sont chrétiens, nés de nouveau, mais qui... Or, depuis la création, le dessein de Dieu, c'est quoi? C'est de nous faire entrer dans sa gloire. Quand l'homme pêche, Dieu dit, empêchons-le d'entrer et de vivre éternellement. Donc, Dieu met des gardiens là pour empêcher à ce que l'homme ne biaise encore, comme on dit, pour essayer de se faufiler pour entrer. C'est réservé. Vous savez, quand les portes vitrées automatiques sont arrivées, beaucoup se sont priés dedans, non? Parce qu'on arrivait, et puis où les portes étaient fermées, où il fallait attendre que ça s'ouvre. Et j'en ai connu un qui ont prié, boum! Quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Mais quand Dieu ouvre par Jésus-Christ, il ouvre. Et c'est éternel. Et tous ceux qui veulent entrer, c'est la possibilité et c'est le seul chemin. Dieu a mis en place un plan de salut pour l'humanité. Autrefois, c'était l'obéissance que Dieu réclamait d'Israël. Il y avait des sacrifices de réparation. Et il fallait le faire. Mais ça ne procurait pas le salut. Et au chapitre 11, notre texte du jour, Dieu dit qu'il a parlé par le Fils. Ce Fils, verset 3, est de même essence, de même substance, je dirais, même esprit que le Père. Il est le reflet, le rayonnement de la gloire et l'expression de son être. Et Patricia a cité ce texte sans savoir de quoi je prêchais. Jean 1, premier degré, au prologue, il dit Jésus-Christ est venu en chair et c'est par lui que nous avons contemplé le Père. Dieu fait en sorte que l'homme ne reste pas dans les ténèbres, ne reste pas dans le noir. Et c'est ce qu'on appelle en Jésus-Christ la révélation particulière. Parce que Dieu avait dit à David, le roi David, il ne te manquera jamais de successeur sur ton trône. Or, Jésus est issu de David, de la tribu de Juda. Donc Dieu tient à sa parole. Quand Dieu parle, la chose arrive. Et Dieu a fait en sorte que malgré la rébellion, malgré la désobéissance de l'homme, tout au long des siècles, quand bien même qu'il y a eu une période de 400 ans, il a envoyé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, précurseur de Jésus, pour dire, voilà, c'est par lui. Et quiconque mettra la main à ce convoi, parce que Jésus, c'est le dernier convoi. C'est pas celui qu'on voit, hein, le dernier convoi. Souvenez-vous de Bartimée assis sur la route de Jéricho. Il entend passer le fils de David. Fils de David, crie-t-il, il dit, c'est le dernier qu'on voit. Et on essaie de le faire taire. Il dit, non, il crie plus fort. Et Jésus doit s'arrêter. Parce que c'est le dernier qu'on voit. Si vous ne prenez pas le dernier train, vous allez dormir sur le quai. Hein? On dit, non, celui-là, il est trop bondé, j'attends le prochain, il n'y a pas d'autre. Je suis arrivé, puis le gars, il ferme le grillage devant moi. J'ai dit, mais je fais quoi là? Il m'a dit, mais prenez un bus. Débrouillez quoi? Quand c'est fermé, c'est fermé. Et on pense toujours qu'on aura une deuxième chance. La Bible dit que la porte de la grâce un jour sera fermée. Comme pour Noé, du temps de Noé. Et donc, ce que Dieu dit, il n'est pas homme pour mentir. Il n'a pas changé de stratégie, il garde son cap pour l'humanité, c'est la gloire. Et il veut partager sa gloire avec nous. Et l'alliance, en réalité, c'est un accord entre deux parties. Dans le mariage, c'est un homme, une femme. Je ne vais pas extrapoler. Hein? Mais il faut qu'on, c'est celui ou celle qu'on a choisi. Et les deux parties se mettent d'accord pour le respect, pour l'obéissance, pour jusqu'à ce que, n'est-ce pas? Certains oublié déjà. Hein? Mais avec Dieu, c'est Dieu qui fait le choix, parce qu'il y a toujours la notion de choix. Dieu fait le choix de nous choisir, de nous mettre de côté. Pourquoi? Pourquoi toi? Pourquoi moi? C'est ça l'Église, un mystère. C'est ça le mystère de Dieu, l'Église. Plusieurs nations de différentes ethnies, mais nous sommes là. Et nous ne savons pas pourquoi, mais Dieu est là, il nous a mis de côté et Dieu exige de nous l'obéissance. Je ne peux pas exiger de ma femme l'obéissance, elle ne peut pas exiger de moi l'obéissance, puisque nous sommes humains. Mais Dieu exige de chacun de nous qui sommes nés de nouveau, enfants de Dieu, l'obéissance. Ce sont ses critères. Et celui qui passe outre, eh bien, c'est assez risque et péril. Tout l'Ancien Testament parle de Jésus comme d'un Messie à venir. N'est-ce pas? Si vous êtes directeur avisé, vous le savez. Il est question en Ésaïe du serviteur souffrant, Ésaïe 53. Et la Bible dit qu'il y aura des attributs divins. Et l'évangéliste Jean, quelques siècles après, 8 siècles après, nous apprend qu'il était avant toute chose. Et toutes choses ont été créées par lui. Jésus-Christ, Dieu, c'est la même personne. Bon, ça c'est un autre débat théologique. Que si vous allez dire ça des témoins de Jéhovah, ils ne vont pas vous croire. Mais ils étaient en parfaite harmonie et le Père en chair est venu parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Philippiens chapitre 2 nous dit que Jésus-Christ s'est littéralement vidé de sa gloire pour venir habiter parmi nous. Mais ce fils n'a pas fait l'unanimité, vous le savez. On va bientôt peut-être célébrer sa naissance, mais Jésus est déjà mort. Il n'a pas fait l'unanimité. Il est venu et il a mis à mal les autorités juives. avec de nouvelles lois. Il a dit, vous avez appris ceci, mais moi je vous dis ça. J'étais avant Abraham. Oh punaise, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit là? Et aujourd'hui, nous savons tous qu'il n'a pas été accepté. Il a été refusé, c'est ce que nous dit le prologue de Jean. Et plus tard, ils l'ont crucifié. Mais ils ne mettront plus la main sur lui quand il reviendra dans sa gloire. C'est lui qui se fera supplier. Mais là encore, il sera trop tard. Dieu étant le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous dit Hébreux toujours, n'a pas changé. Il veut racheter l'humanité et c'est son alliance éternelle, je répète, depuis la jeunesse des temps. Quand Jésus vient vers Jean-Baptiste, il se fait entendre une voix dans le ciel qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Dieu a parlé. Dieu avait arrêté de parler. Dieu a parlé. Et nous devons l'écouter. Quand Jésus se retrouve sur la montagne de la Transfiguration avec Élie d'un côté, Moïse de l'autre, et que Pierre, dans son enchantement, dans son zèle, veut construire, veut monter des tentes, et c'est super, qu'est-ce qu'on est bien ici. Une voix se fait entendre du haut du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il n'y a pas d'autre alliance faite avec les hommes, ni Moïse, ni ça n'existe plus, ça c'était avant. C'est comme chez Afflelou. Ça c'était avant. Maintenant nous sommes en Christ. Et il faut savoir où je suis aujourd'hui, si je suis en Adam ou si je suis en Christ. Si je suis en Adam, je dois encore des sacrifices au Seigneur, hein. Et bonjour les peaux de mouton ici tous les dimanches matin. Mais je suis en Christ parce que tout a été fait, tout est accompli. Et quand il dit tout est accompli, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Et il dit, Seigneur, je te remets mon esprit pour que l'ennemi n'ait pas à corrompre mes frères, mes sœurs. Dieu détient toutes choses. Pardon. Celui qui est qui cherche le salut par l'observation des lois, il sera face à une problématique un jour, tôt ou tard. Et je suis souvent confronté à des musulmans ou à des adventistes. Ils me disent, pourquoi les évangéliques n'ont pas compris qu'il faut faire le sabbat? J'écoute. Hein. Il dit, si tu veux faire ton sabbat, fais ton sabbat. Peut-être qu'on va se retrouver là-haut, puisqu'on sert le même Dieu. Mais je ne peux pas admettre que musulmans me disent que c'est Allah et puis c'est point bas. Bon. Autrement, je n'aurais rien compris à l'évangile. Romains chapitre 3, verset 21. Ce n'est plus la circoncision, c'est la foi en Jésus-Christ seul. Puisque Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance, Romains chapitre 3, verset 21, Dieu nous fait comprendre que nous avons désormais une possibilité en Christ et en Christ seul. Romains 3, 21, mais maintenant sans la loi, et manifester la justice de Dieu attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Quand il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Et aujourd'hui, je dois faire très attention pour ne pas ajouter à côté de Jésus-Christ, des Ellen G. White, des Joseph Smith, des je ne sais pas qui. Il n'y a que Jésus et Jésus-Christ. Le premier homme a échoué, la loi a échoué, et c'est à travers la rédemption que nous venons de le lire, le rachat, disons-le, par le sang versé de Jésus à la croix, que nous avons porte ouverte pour accéder à Dieu. N'est-ce pas? Jésus a accompli ce pourquoi il était venu, offrir le salut aux hommes. Et nous avons cette révélation, il nous faut la foi. Pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend via la parole de Dieu. Et nous devons l'accepter. C'est une conviction que le Saint-Esprit met en nous, convaincu de péché, de justice et de jugement. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et encore notre débat, pourquoi le Saint-Esprit est Dieu? C'est théologique. Hein? Et nous ne sommes pas là pour débattre de ça ce matin. Mais c'est une grande confusion dans la tête de beaucoup. Et nous devons comprendre que Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Tout a été focalisé sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est en partie, le Saint-Esprit est venu. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'économie du Saint-Esprit. Il tourne le regard vers Jésus-Christ. Il est au centre. Il n'y a pas d'autre. Christ seul. Je disais Christ seul espoir, mais il n'y a pas d'autre espoir. Et cette foi qui nous tiraille d'un côté et de l'autre, pour qui, pourquoi, que quoi, etc. C'était la même chose du temps de Jésus. Ils étaient tiraillés. Mais nous sommes appelés, en dehors de cette révélation, en dehors de la foi que l'Écriture nous procure, à être enracinés, à atteindre cette maturité en Christ. Parce que c'est en Christ que nous sommes, et pas en Adam. Vous savez, l'expression « en Christ » revient 164 fois, rien que sous la plume de Paul. D'où son importance. 164 fois, rien que dans le Nouveau Testament sous la plume de Paul. Et Dieu, le Père, a voulu en Christ nous placer dans cette alliance avec son fils et avec son fils seul, parce qu'il n'y a pas de sacrifice d'animaux. Si vous lisez l'Épître aux Hébreux, qui est d'ailleurs appelé le cinquième évangile, vous avez tout relaté dans le chapitre 9. Il n'y a pas d'autre sacrifice. Les anciens sont morts. Mais Christ est venu une fois pour toutes. Et en dehors de Christ, point de salut. Point de sacrifice encore. Nulle part dans la Bible, il est question d'une gloire rendue à Mahomet, ni à Bouddha, ni à la Vierge Marie. Et donc, fort de cela, je ne peux que me tourner, me résigner à rester attaché et accroché à Christ. Parce que c'est en Christ seul que je dois grandir. L'apôtre Paul ira jusqu'à dire, je ne veux rien savoir d'autre que Christ crucifié. Dites-le tout ce que vous voulez, fuyez les discussions fortes. D'ailleurs, il nous conseille. Ça ne sert à rien. Parle-moi de Jésus-Christ crucifié, je t'écoute. Parce que la vraie question, ou les vraies questions, c'est pour qui il est mort et pourquoi il est mort. La loi n'est pas morte pour nous. Adam n'est pas mort pour nous. Marie, on ne sait rien. Elle n'est pas morte non plus pour nous, même si l'Église romaine essaye de l'élever. Mais à chacun de nous de croire et de comprendre que Jésus-Christ est la seule porte des brebis. Et la Bible dit maintenant, nous sommes en Christ, Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus aucune condamnation, nous ne sommes plus condamnés en Adam, nous sommes dans une alliance éternelle désormais, en Christ, pas dans la religion évangélique, de surcroît baptiste, ça c'est des titres. En Christ. Et désormais, la Bible parle de la gloire de la rédemption. Nous sommes rachetés. Et elle parle de la gloire des enfants de Dieu, parce que Jésus-Christ est passé, de par son incarnation, à sa crucifixion, sa résurrection, de fils unique, fils premier-né, vous vous souvenez, Israël, Exode, Si Jésus est fils, celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de toute mon affection. Israël n'est plus là. C'est Jésus-Christ. Un fils premier-né d'un grand nombre de frères. Qui sont ses frères? C'est l'Église aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand Jésus ressuscite, qu'est-ce qu'il dit aux femmes autour de la tombe? Va dire à mes frères que je les précède en Galilée. Tous ceux qui font la volonté de Dieu aujourd'hui en Christ sont fils, sont frères et sœurs de Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 2, si vous tournez un peu la page, verset 11, il est dit que Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler ses frères. Il sait qui nous sommes, il sait que nous ne sommes pas fidèles, il sait que nous sommes malheureux, nous sommes. Mais il nous appelle frères quand même. Vous n'avez jamais entendu ces chrétiens qui disent « Ah, moi, je n'appelle pas tout le monde frère. Hein? » Mais je ne le connais pas. Je ne connais pas, je ne l'appelle pas frère, je ne l'appelle pas sœur. Mais Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Parce qu'il sait qui nous sommes. Pourquoi il nous a choisis? Est-ce que vous étiez meilleur que d'autres? Est-ce que j'ai été meilleur que d'autres? C'est ça le choix. Et dans un mariage, c'est ça. Il dit, pourquoi tu as choisi un tel? Pourquoi tu as choisi un tel? J'étais là. Mais tu as fait ton choix parce que tu l'as préféré. Ça peut paraître marrant, mais un choix, c'est parfois compliqué à faire. Avec ses conséquences. Mais Dieu ne fait jamais d'erreur. C'est lui qui nous a choisis. Est-ce qu'il a fait une erreur en nous choisissant? Pourquoi vous dites non, vous ne savez pas? Mais Dieu ne fait pas d'erreur, vous avez raison, il n'a pas fait d'erreur. Mais c'est un privilège pour toi et pour moi, et nous sommes devenus héritiers de Dieu, co-héritiers du Fils, et nous menons désormais une vie de victoire, et plus de condamnation. Amen. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21, pour asseoir encore ce que Paul dit. 1 Corinthiens 1, 21, il dit, c'est car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons. C'est peut-être un scandale pour les hommes, mais pas pour Dieu. Et vous pouvez continuer la lecture. Hein? C'est peut-être un scandale pour Dieu, pour les hommes, mais pas pour Dieu. C'est sa sagesse. Et la vie de victoire est rendue possible par notre soumission au Père et au Fils. Parce que le Fils a obéi en tout, sans péché. Et donc, nous sommes là ancrés dans une alliance éternelle. Le Père nous a parlé par le Fils. Si vous lisez Jean, chapitre 5 et 6, évangile de Jean, Jésus dit, vous sondez les Écritures. Vous ne croyez pourtant pas en moi. Vous avez le Père, vous avez Jean-Baptiste, vous avez les œuvres que je lui ai faites. Vous n'avez pas cru en moi quand même. Que faut-il faire? On a beau prêcher l'évangile dans sa simplicité, les hommes écoutent et passe outre. On ne peut rien faire. C'est Dieu, par son Esprit Saint. N'est-ce pas? Combien de fois nous avons entendu l'évangile avant de craquer? Hein? Vous êtes venus au premier appel? Non. Donc nous sommes scellés par une alliance irrévocable. L'œuvre du Saint-Esprit est de nous amener à une maturité, à une conviction profonde, pour que nous marchions sur ce chemin de la sainteté, de la sanctification jusqu'au retour glorieux du Fils. C'est lui l'objet de toute affection du Père. Amen. Et donc, faisons attention à ne pas nous laisser séduire, parce que c'est tellement facile. Nous avons un adversaire qui est redoutable et sans cesse, il essaye de nous faire croire que ce sont tes frères, ce sont tes cousins, c'est... Et même Dieu, parce qu'il connaît. Lisons le dernier passage et je vous laisse. Hébreux chapitre 13, Et si vous n'avez jamais lu Hébreu, étudié Hébreu, lisez Hébreu. C'est magnifique parce qu'il ne parle que de Jésus-Christ, supérieur en tout. Hébreu 13, verset 20-21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis que nous sommes. Amen. Enfin, les brebis, hein, pas les bergers. Hein. Il a ramené d'entre les morts par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Lisez, relisez cette bénédiction-là. Et dites, Seigneur, je veux me trouver dans cette alliance-là. Je ne vais pas passer à côté. Que ce Dieu, ce grand Dieu nous amène à cette alliance, quand parfois nous avons tendance à biaiser, pour que nous puissions rester fidèles au Seigneur Jésus, parce qu'il est fidèle au Père. Il a été, il l'est encore. Et il est assis aujourd'hui à la droite du Père, et nous sommes assis en Christ. Amen. Que Dieu nous aide à grandir et à rester attachés au Seigneur.
Merci Dieu trois fois saint pour ta parole, parole source de vie. Et je vais rappeler Othniel et puis Willy. Je les remercie beaucoup parce que, pour tout vous dire, on n'a pas eu une répétition. On a eu un très court moment, mais toute la gloire en revient à Dieu. On n'est pas là pour faire un show, on est là pour servir Dieu avec nos imperfections. Alors merci vraiment à Willy et à Othniel. Je ne vais pas reprendre le dernier verset que Raymond a lu, mais le Seigneur nous interpelle en ce matin et il nous dit... Il est lent à la colère. Amen. Et il est riche en bonté. Le psaume 145 nous dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, verset 8. Lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Encore en ce matin, si nous sommes fatigués et chargés, venons à Dieu. C'est le Dieu de toute grâce. Si nous n'avons pas encore fait la paix avec lui, ne tardons plus. Oui, c'est vrai, comme l'a dit Raymond, comme le dit la parole, comme du temps de Noé, Dieu a fermé la porte. Et aujourd'hui, quand Dieu fermera la porte, même si vous assiquez là, dans l'escalier, peu importe, tu ne rentreras pas. Et une vie loin de Dieu, c'est ça l'enfer. C'est pas les flammes qu'on nous montre, l'église catholique, trucs comme ça, le diable avec des cornes, non. L'enfer, c'est la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Nous allons nous lever et chanter ce chant. Est-ce que vous le connaissez? Lent à la colère et riche en bonté. Est-ce que vous le connaissez ce chant? Tu peux l'afficher, Jonas, s'il te plaît? Ô Seigneur, tu es un Dieu de grâce dont l'amour à jamais ne dépasse. Le refrain nous dit, lent à la colère et riche en bonté. Tu effaces notre condamnation. Tu déploies ta bannière sur nous et tu demeures fidèle à ton alliance.
Lent à la colère.
tu effaces notre condamnation, tu effaces notre condamnation, seul sauveur et Dieu de compassion, seul sauveur et Dieu de compassion, lent à la colère et riche en bonté, lent à la colère et riche en bonté, tu déploies, tu déploies ta bannière sur nous, tu
Dieu de grâce, dont l'amour à jamais nous dépasse. Ces mots sont profonds. Hein. Tu effaces notre condamnation, seul sauveur et Dieu de compassion. Dieu a déployé sur nous sa bannière. Et l'Éternel est un Dieu jaloux. Il veut toute notre attention. Il demeure, lui, il demeure fidèle à son alliance. Merci, Iras, je savais, mon frère. Je t'aime, Iras. Dieu demeure fidèle à son alliance et il nous remplit de bienveillance. Nous sommes frères et sœurs bien-aimés. C'est ce grand Dieu merveilleux, mystérieux, qui a fait de nous des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Nous n'avons aucun mérite parce que si moi je vous avais rencontré dans le métro... Hein, je serais peut-être passé sur vous. Hein. Ou bien j'aurais dit, oh, regardez madame là, oh, regardez monsieur là. Voyez, Non, il faut, notre cœur, il est tordu. Hein. Mais parce que Dieu est un Dieu de grâce, rempli de bienveillance et surtout fidèle à son alliance, il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, enfants de Dieu. Amen. N'oublions pas qu'il est lent à la colère. Sa main, il la retient. Dieu retient sa main aujourd'hui pour donner le temps à tous ceux dont le livre est inscrit sur le livre de vie de rentrer dans la bergerie. Mais le jour où Dieu fermera la porte, alors vous connaissez la suite. Lent à la colère et riche en bonté. Amen. Je vous invite à vous asseoir, bien-aimés.